Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, action directe ou la dérive criminelle d'une idéologie. L'histoire que nous évoquons aujourd'hui, c'est celle des années de plomb à la française. Rien de tout à fait comparable à la situation en Italie avec les Brigades Rouges. Rien en termes de victimes, d'enjeux et de durée, mais tout de même, un certain cousinage avec ce qui s'est passé de l'autre côté des Alpes et de l'autre côté du Rhin, avec les fractions armées rouges. 1985, le général Audran, directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, est assassiné. 1986, Georges Besse, président-directeur général de Renault, assassiné, lui aussi. Deux noms égrenés dans la liste des victimes d'action directe, ce groupe dont les méfaits ont mobilisé les forces policières des années durant. Ses membres, recherchés, arrêtés puis relâchés, faute de preuves, et en raison de l'amnistie consécutive à l'élection de François Mitterrand, seront mis hors d'état de nuire, finalement, en février 87, cueillis par la police dans une ferme du Loiret à Vitry-aux-Loges, où ils s'étaient retirés et cachés. Alors comment s'est constitué ce groupe? Quelles sont ses racines politiques? Ses membres étaient-ils des enfants perdus de mai 68 qui a déboutonné la société française mais qui n'a pas débouché sur le grand soir tant attendu par certains? Contrairement à ce qu'avait dit La Rochefoucauld à Louis XVI, non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Mai 68, c'était le contraire. Et d'une révolte, on ne crée pas un ordre nouveau, on le réforme, tout au plus. Alors quel était le sens de ce choix de la lutte armée, le choix d'action directe? Pour en parler avec nous, après le récit, Fanny Bignon, notre invitée, elle est historienne. Elle a travaillé sur les femmes et la violence politique et sur les deux femmes du groupe d'action directe, Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Marie-Louise Beau, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Pierre Jabou-Coyenne-Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Vincent Godard, Henri Bérec.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Deux attentats commis cette nuit par action directe visaient des sociétés travaillant pour la défense nationale.
Bonjour à tous. Les terroristes d'action directe se sont donc réveillés cette nuit en commettant quatre attentats à Paris et dans la banlieue.
Et puis cette nuit, deux bombes ont explosé à Paris. La première visait les bureaux de la société L'Air Liquide, Quai d'Orsay.
Le siège du Parti Socialiste, le ministère de la Défense, c'est Action Directe qui a revendiqué les attentats.
AD Action Directe. Action Directe. Si le groupe a choisi ce nom, c'est parce que dans sa première période, son but est d'agir en dehors des partis et des syndicats. Pour sortir de cet isolement, Action Directe cherche un soutien hors de France. C'est alors le début de la période dure.
Action Directe, une organisation considérée comme la bande à bas d'air française. À son actif, plusieurs hold-up, mitraillages et plastiquages.
C'est sur le terreau des événements de mai 68 qu'on germait dans les années 70 des courants de pensée néo-marxistes remettant en cause le système. Dans une logorée souvent incompréhensible, mais qui est leur signature, ils s'insurgent contre l'exploitation des faibles et la transformation du citoyen en consommateur. Et c'est au tour et à l'occasion des grands sommets internationaux que s'expriment de la manière la plus spectaculaire qui soit ces groupes altermondialistes et anticapitalistes. Des groupes formés en majorité de jeunes gens idéalistes et déterminés tels que celui-ci en 1981.
Alors moi j'ai 24 ans. Mon cheminement politique commence à l'âge de 16 ans au moment des événements de la loi Debré en 73. Au lycée. Et à travers la lecture de quelques bouquins et des discussions, bon, je me définis comme de sensibilité anar. Bon, et puis il y a tout un cheminement politique. Il arrive un moment où, quand tu t'aperçois de ta propre misère, bon, que ce n'est pas la vie qu'on te propose, mais la survie, bon, tu ne fais plus confiance aux partis de type traditionnel, réformiste ou autre, et tu penses qu'il faut envisager d'autres types d'actions. À ce moment-là, tu fais un choix d'action, bon, un choix politique, et tu envisages des actions illégales, bon, qui sont autres que des diffusions de tracts, bon, des prises de parole dans des meetings ou d'autres actions de ce type.
Ça veut dire la lutte armée?
Ça veut dire, entre autres, la lutte armée. Mais la lutte armée, en soi, n'est pas une finalité.
Elle peut le devenir. Elle le deviendra. De nombreux signaux de la montée en puissance d'une ultra-gauche radicale apparaissent depuis plusieurs années en Europe occidentale. Il est même question, selon les services de sécurité européens, d'une internationale anti-autoritaire insurrectionnelle ou d'un triangle anarchiste méditerranéen regroupant l'Italie, l'Espagne et la Grèce. L'extrême activité des groupes violents dans ces trois pays est en confluence avec la réapparition de groupes révolutionnaires comme la Rote Armee Fraktion en Allemagne. Tous tirent parti de la culture et de la clandestinité de l'extrême gauche et utilisent ces techniques d'action et de renseignement. Les années 70 se conjuguent sur ce mode de la violence qui va perdurer quasiment toute la décennie suivante et culminer en France avec l'assassinat du PDG de Renault, Georges Besse.
Les Robots.
Il est un peu plus de 20h en ce 17 novembre 1986. La nuit est tombée sur Paris lorsque le chauffeur de Georges Besse, PDG de Renault, le dépose devant son domicile, boulevard Edgar Quinet. Tout à coup, une jeune femme l'approche, l'examine rapidement et sans un mot, ouvre le feu. Elle s'empare de son cartable avant de tirer une seconde fois. Puis suivie d'un complice, armé elle aussi, et qui la couvre, elle disparaît boulevard Raspail après avoir balancé une poignée de tracts identifiant les auteurs du crime et annonçant les prochaines cibles. La presse est sur les lieux, questionnant les témoins.
J'ai rentré, je venais du métro, et puis j'ai vu la police, les pompiers, puis je suis passée juste devant, on m'a dit de partir, mais il y avait un corps, j'étais en train de lui faire de la respiration artificielle.
Vous saviez qui c'était?
Ben, on me l'a dit après, puisque je ne connaissais pas, j'ai dû certainement le voir, parce que j'habite juste à côté, mais...
Vous ne saviez pas que c'est Georges Besse?
Non, on me l'a dit, là.
Il paraissait déjà mort, ou...
Oui, je pense, parce qu'il était tout blanc. C'était tout blanc, avec un trou au niveau de la poitrine. Et puis on essayait de lui faire de la respiration artificielle, mais...
Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? On vous l'a dit ou pas?
Ben non, parce que... Oui, après, parce que...
Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Ben, on m'a dit qu'on avait entendu 4 ou 3 coups de feu, ça dépend des témoignages. Et
On a vu des gens s'enfuir?
Ben oui, il paraît qu'on a vu... Il y a plusieurs témoins ont vu 2 personnes s'enfuir. Et il y a un témoin qui a vu une personne s'enfuir de l'autre côté.
C'est-à-dire vers...
Il y a 2 personnes qui s'enfuient par là et un témoin qui avait une personne qui s'enfuit à droite.
C'est tout ce que vous avez su?
Oui.
L'opération est signée Action Directe. Qui n'en est pas son coup d'essai? Alors, qui sont ces terroristes qui se livrent depuis des mois, depuis le printemps 1979, à ce jeu de massacre? Il s'agit d'un quatuor dont les partenaires jouissent déjà d'une funeste notoriété. Un bien étrange attelage, à vrai dire, composé d'individus aux origines sociales variées, mais qui partagent une même conviction. À la violence sociale qu'inflige la société capitaliste, il y a une seule réponse, une violence égale. La lutte armée, financée par le vol et la dérive criminelle que le groupe appelle, pour la justifier, la réappropriation prolétarienne. Leurs noms, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani, le dernier venu, c'est le noyau dur d'Action Directe. Jean-Marc Ancien, journaliste spécialiste police-justice, dresse leur portrait sur France Inter en 1987.
Alors Joël Aubron d'abord, 27 ans, né à Neuilly, baptisé La Bourgeoise, parce que issue d'une famille aisée, elle connaît Action Directe depuis le début. Elle a fréquenté les squats et les autonomes. En 1982, elle est arrêtée en possession d'un véritable arsenal avec Mohad Amani, qui s'illustrera l'année suivante en abattant 2 policiers avenue Trudaine. Libérée en 84, Joël Aubron épouse alors Rézi Schlecher, l'autre tueur de l'avenue Trudaine. La photo de Joël Aubron est placardée dans tous les commissariat depuis l'assassinat de Georges Besse. Georges Cipriani, ensuite, il a 35 ans, c'est le garde du corps de Jean-Marc Rouillan et de Nathalie Ménigon. Pour les policiers sur le terrain, c'était un des plus dangereux. La justice le recherche pour la tentative d'attentat contre le juge Jean-Louis Bruguière. À titre d'exemple, Georges Cipriani a longtemps fréquenté André Olivier et Max Frérot, 2 hommes qui avaient fondé un petit groupe satellite d'Action Directe, c'était l'Affiche Rouge à Lyon.
Considérée comme une bourgeoise au motif qu'elle est née, a été élevée à Neuilly, Joël Aubron suit un parcours banal jusqu'à son échec au bac qui la pousse à s'éloigner de sa famille et à fréquenter des squats où elle fait la connaissance de militants d'extrême gauche. Lorsqu'elle s'affiche comme participante d'Action Directe, elle est déjà liée aux membres du noyau dur de l'organisation. Quant à Rouillan et Ménigon, ils se connaissent depuis longtemps déjà, puisque c'est eux qui, avec quelques camarades, ont fondé Action Directe en 1979. Rouillant, originaire du Sud-Ouest, a débuté sa carrière de franc-tireur en Espagne, dans un mouvement terroriste antifranquiste où il se faisait appeler Sebas, avant de rejoindre le GARI ou groupe Action Révolutionnaire Internationaliste. Quelles sont donc ses motivations?
Moi j'ai 29 ans, je faisais partie d'une organisation de lutte armée espagnole. J'ai été arrêté en France. J'ai fait 2 ans et demi de prison. Quand je suis sorti, en 77, je me suis trouvé face à une réalité sociale bloquée. Je pensais que l'action des partis de gauche et d'extrême gauche ne pouvait pas dépasser ce blocage. Je ne pouvais pas me retrouver dans des espaces de lutte légaux que le pouvoir nous créait. Un peu une sorte de soupape de contestation. J'ai pensé que la lutte armée était un des moyens qui pouvait débloquer cette réalité sociale.
Nathalie Ménigon, elle, possède une longue pratique du combat. On l'a souvent désignée comme l'intellectuelle et la théoricienne du groupe. Issue d'un milieu ouvrier, elle est employée de banque et elle crée des comités opposés tant au patronat qu'aux syndicats établis. Le dernier acolyte du groupe, c'est Georges Cipriani. Il est né à Tunis, tourneur chez Renault dans les usines de Boulogne-Billancourt. Il intègre la gauche prolétarienne, un parti révolutionnaire, avant de s'exiler en Allemagne jusqu'à la fin des années 70 et de rejoindre Action Directe dès son retour sur le sol français. Ces individus constituent le socle idéologique et le bras armé d'Action Directe. Pendant près de 10 ans, ils vont narguer la police et semer la terreur. Malaise. Quelles convictions peuvent-elles être suffisamment fortes pour justifier l'assassinat de sang-froid d'innocentes victimes dont le seul tort est d'avoir endossé l'uniforme de la société établie? Et pour commettre des braquages, l'arme au poing, et pour déposer des explosifs dans des lieux publics au mépris de la vie humaine, alors que paradoxalement, ces gens-là se réclament de la justice et d'une société plus humaine, débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Quel est donc le credo politique d'Action Directe? Écoutons ce qu'en dit le journaliste Jérôme Bonaldi, qui a longuement enquêté sur ce groupe dans les années 80.
J'ai l'impression tout de même que c'est effectivement qu'ils ont un peu une trop grande sûreté d'eux-mêmes. C'est une impression très personnelle. Ils ont une trop bonne conscience de leur action et de l'efficacité de leur action. Je crois qu'ils parlent beaucoup politique avec un discours très, très théorique, très marxiste et un peu hermétique, et que ce discours politique sert d'auto-justification. Ils sont enfermés dans un discours politique qui peut-être les empêche de voir la réalité.
Couper les réalités.
Un peu, oui, je crois. Ils s'auto-justifient eux-mêmes par un discours très, très hermétique, très politique. Par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur faire changer ce langage, d'un langage qui soit compréhensible par tout le monde.
Les belles espérances de 68 se sont éteintes, abandonnant quelques braises qu'un souffle pourrait suffire à ranimer.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Action Directe, notre invitée que nous retrouvons dans quelques minutes, Fanny Bunion, historienne spécialiste du terrorisme. Les pouvoirs publics européens sont ainsi confrontés à la montée d'une kyrielle de mouvements contestataires violents. En France, les groupes d'action révolutionnaire internationaliste ou GARI, les brigades internationales, et les noyaux armés pour l'autonomie populaire, les NAPAP, c'est cette nébuleuse qui va engendrer Action Directe. C'est en 1970 que le groupe gauche prolétarienne est dissous à la suite d'un épisode particulièrement violent en mai de cette année-là. Ses anciens membres décident alors que la contestation exige une escalade dans la lutte afin de garantir le succès de leurs futures opérations. Il leur faut fonder une nouvelle organisation de nature clandestine. C'est ainsi que la nouvelle résistance populaire, NRP, voit le jour. Elle s'illustre notamment par l'enlèvement raté de l'industriel Henri de Vandel comme mesure de rétorsion au projet de licenciement de 12 000 de ses ouvriers. Action Directe s'est divisée en 2 factions, avec d'un côté à Paris le Quatuor, Rouillan, Ménigon, Aubron et Cipriani, et d'autre part la branche lyonnaise, dite la Fiche Rouge, avec André Olivier, Joël Crépé, Bernard Blanc, Max Frérot alias Émile Ballandras, démantelé en 1986. Les deux branches se démarquent idéologiquement. À Paris, Rouillan publie le manifeste pour un projet communiste, se réclamant d'une idéologie communiste libertaire, largement inspirée des thèses des Brigades Rouges. La branche lyonnaise, elle, composée d'ex-Mao et d'Anar, se définit comme marxiste-léniniste. À ses débuts, Action Directe répugne à tenter la vie d'autrui. Son objectif se cantonne essentiellement à des actions symboliques sur des bâtiments représentatifs de l'establishment. Puis ensuite, lorsque le groupe se radicalise, il revendique ses approvisionnements en armes et papiers d'identité auprès de circuits favorables à leur action, comme l'explique Nathalie Minigon, journaliste Jérôme Bonaldi.
Jamais nous n'avons eu de contact avec le milieu traditionnel. On n'a jamais volé de sacs aux petites vieilles. Et nous sommes toujours efforcés d'avoir une attitude correcte et des relations politiques avec les gens au niveau des échanges ou des prêts ou des donations ou des ventes, que ce soit d'armes, de papiers ou autres.
Pas de magouille.
Non, absolument pas. Nous sommes toujours efforcés d'être clairs politiquement et, bon, vraiment, le fonctionnement de notre organisation se fait sur des bases claires et correctes.
C'est-à-dire que, par exemple, pour se procurer des armes, il y a un circuit révolutionnaire, entre guillemets, pour s'en procurer.
Oui, en effet, il y a un circuit avec des relations entre différentes organisations révolutionnaires.
C'est lorsque le groupe développe des liens avec l'organisation terroriste italienne Prima Linea que le virage est pris. Il s'agit d'un groupe voisin de Brigade Rouge qui prend conscience qu'en France, les attaques à main armée sont peut-être plus aisées qu'en Italie et qui s'associe à Action Directe, imprimant un durcissement du groupe français. C'est le début d'une internationale terroriste européenne qui va fédérer également la fraction armée rouge en Allemagne et adopter des comportements ultra-violents, assassinats, enlèvements. C'est d'ailleurs de cette dernière période, de 1982 jusqu'au démantèlement, que datent les crimes commis par le groupe. Leur arrestation en 1987 permettra d'ailleurs de découvrir des preuves de cette alliance.
3 armes volées en Allemagne fédérale, 15 cartouches d'explosifs dérobées dans une carrière belge, des papiers ouest-allemands, le butin trouvé dans la planque de vitrologe apporte les preuves des liens entre groupes terroristes européens. Cette coopération logistique s'accompagnait vraisemblablement de la recherche d'une ligne idéologique commune. Des traductions en français de tracts de la fraction armée rouge ouest-allemande l'attestent. Un croquis grossier de l'aéroport militaire américain de Francfort laisse également penser que l'attentat perpétré en août 85 contre cette base, attentat qui fit 2 victimes, était monté par les 2 groupes. Toutefois, ces découvertes n'affirment pas la thèse des services de renseignement ouest-allemands selon laquelle cette coopération n'a été qu'éphémère. Ces experts pensent que le mariage n'a tenu que quelques mois, de l'automne 84 à l'été 85. Or, les armes découvertes à Vitréologe ont été volées en novembre 84 et l'explosif belge en juin de la même année. Preuve supplémentaire du divorce, les derniers meurtres commis par les 2 groupes n'ont pas été revendiqués en commun.
Il n'existe pas de date officielle de la fondation des fractions armées rouges. C'est à la mort d'Andreas Bader en 1977 que se produisent les premiers attentats terroristes. Réponse anarchique et chaotique à une série de doléances et de protestations contre la guerre du Vietnam, la nature de l'enseignement, la visite du Shah en Allemagne, la mort du Che, la liste est longue, hétéroclite. Ce qui est sûr, c'est que les membres de la RAF, Rote Fraktion Armée, très organisée, se livrent à des actes terroristes d'une grande violence, avec pour l'objectif et objectif premier d'installer un régime marxiste révolutionnaire en Allemagne et de soutenir les luttes communistes internationales. C'est dans le paysage international troublé d'une jeunesse révoltée que vont se produire les premiers faits d'armes d'Action Directe.
Alors, et défonce la tête tous les préjugés, même dans ta tête, c'est limité. Faut sans arrêt bouger, c'est l'évidence. Alors j'avance, sans m'occuper des coups, ou les éviter, ou les encaisser. Panard, c'est du noblard. C'est du noblard, mec. Tout ça sert à rien, car quand elle vient, es toujours là, avec moi, avec toi. Ad vitam aeternam, ad vitam aeternam, ad vitam aeternam, bébé.
Sensible sur France Inter, aujourd'hui vie et mort d'Action Directe. Le 1er mai 1979, rue Pierre Ier de Serbie, à Paris, la façade du Conseil National du Patronat Français est mitraillée. Le commando est composé d'Olivier, Frérot, Rouillant et Ménigon. Le 25 mai, c'est à Sceaux qu'une agence immobilière est attaquée à l'explosif. C'est la première opération revendiquée par Action Directe. Suivent encore 6 autres méfaits qui se succèdent jusqu'à mars 1980. Des attentats à l'explosif ou des mitraillages contre des bâtiments officiels ou représentant les institutions patronales ou politiques. Même les locaux secrets de la DST sont visés. Le 18 mars, le ministère de la Coopération est mitraillé, boulevard des Invalides, alors que le ministre Robert Gallet vient à peine de quitter son bureau. Il est touché d'ailleurs par des tirs. Des tracts signés Action Directe sont laissés sur place, aisément reconnaissables parce que frappés de l'étoile rouge à 5 branches. Et les actions se poursuivent. Le 5 août, la mairie du 14e arrondissement est braquée par un commando qui s'empare de documents et de cachets officiels. Ces documents seront retrouvés plus tard entre les mains de membres d'Action Directe comme autant de signatures. C'est alors que la police tend un piège. Elle utilise un informateur, Gabriel Chahin, qui propose aux membres du commando une rencontre avec les émissaires du terroriste Carlos, une sommité en matière de terrorisme. Il s'agit auprès de lui d'apprendre et de mettre au point un projet fou contre le barrage d'Assouan en Égypte. Une rencontre entre les futurs associés semble indispensable pour sceller le contrat. Au cours de ce rendez-vous, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, qui n'ont pas vu venir le piège, sont arrêtés rue Pergolèse à Paris. Lors de l'interpellation, Nathalie Ménigon tire sur les policiers.
Bonsoir. 13 septembre 1980, 18h15, fin d'après-midi calme dans le 16e arrondissement de Paris, rue Pergolèse, une 604 métallisée glisse silencieusement. Soudain, une violente fusillade éclate. De la voiture, une femme a surgi. Au pied d'un immeuble, un homme est traqué par une multitude de policiers. Lui n'a pas le temps de saisir son arme, un Magnum 357, mais elle dégaine et vide deux chargeurs. Le couple est ceinturé. Dans la voiture, on retrouve une grenade. La police vient de mettre la main sur l'homme et sur la femme les plus recherchés de France, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, chef d'Action Directe, une organisation considérée comme la bande à Bader française. À son actif, plusieurs hold-up, mitraillages et plastiquages.
Passés aux aveux, les deux complices reconnaissent 11 attentats et mitraillages à Paris depuis leur début en mai 1979. Ils sont déférés devant la Cour de sûreté de l'État. En fin d'année, ce qui reste du groupe fait savoir qu'il suspend ses opérations durant la campagne présidentielle. À l'élection de François Mitterrand, Rouillant est amnistié avec d'autres détenus, mais Nathalie Ménigon, accusée de tentative d'homicide contre des agents de la force publique, reste incarcérée. Elle entreprend alors une grève de la faim pour influencer le magistrat Guy Joly. Elle est soutenue par des manifestations et une partie de la presse de gauche. Finalement, elle obtient sa libération pour raison de santé en septembre 1981. Cette mesure provoque la colère des policiers et des politiques de droite. C'est au cours de l'hiver 1981-1982 qu'Action Directe se scinde en deux groupes. La branche lyonnaise, qui s'oppose à la poursuite des attentats, et la branche parisienne, qui poursuit ses activités, s'illustrant par des actes de plus en plus brutaux et qu'elle adopte comme mode opératoire. En 1985, elle annonce sa fusion avec la fraction Armée Rouge allemande. C'est d'ailleurs en janvier de la même année qu'est commis l'assassinat du général René Audran. L'énumération des cibles, toute symbole de l'ordre et de l'oppression capitaliste, serait fastidieuse. Mais la terreur est à son comble, les politiques s'indignent et la police est sur les dents. En 1986, Charles Pasqua est nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement de cohabitation. Il tient à se démarquer de l'ancienne majorité socialiste qu'il qualifie de laxiste.
Ce n'est pas le gouvernement auquel j'appartiens qui a proposé la libération de Rouillant et de Ménigon. Ce n'est pas le gouvernement auquel j'appartiens qui a autorisé l'installation sur le territoire national de 300 membres des Brigades Rouges italiennes. Ce n'est pas le gouvernement auquel j'appartiens qui a nommé M. Tony Negri professeur à la Sorbonne. Nous avons obtenu du Parlement les lois qui nous donnent les moyens nécessaires pour intervenir, prévenir et réprimer. Quant à Action Directe, et pour les deux branches qui la concernent, en ce qui concerne la branche internationale, 22 membres de cette organisation criminelle sont sous les verrous, dont les assassins des policiers de la rue Trudaine. Ils répondront prochainement de leur forfait. Pour ce qui est de la branche nationale, 12 de ses membres sont sous les verrous, ils répondront également de leurs crimes.
Action Directe est une cible prioritaire, ce qui n'empêche nullement le groupe d'assassiner Georges Besse en novembre de cette même année. Le ministère de l'Intérieur mobilise alors massivement ses agents et décide d'utiliser l'artillerie lourde. On ratisse large, questionnant des anciens voisins, des ex-sympathisants, d'anciens amis et militants. Un budget important est mis à disposition des enquêteurs pour faciliter leur déplacement dans le cadre de leur traque. Tous les commissariats de France et de Navarre affichent les portraits des quatre terroristes. Une prime d'1 million de francs est même offerte pour tout renseignement permettant de les localiser.
La réussite de la lutte contre le terrorisme suppose, premièrement, la réactivation et la dynamisation des services de renseignement. Deuxièmement, la collaboration de la population. Et la dernière opération que nous venons de réaliser en ce qui concerne Action Directe, comme la précédente, est l'illustration de l'application de ces deux règles. C'est notamment parce que des gens avaient reconnu sur des photos un des membres d'Action Directe, qui l'a signalé à la gendarmerie, qui nous a alerté, que nous avons pu remonter cette filière.
D'autres succès peut-être ?
Peut-être. Mais vous savez, la lutte contre le terrorisme est une affaire de longue haleine. Elle sera faite de succès et aussi d'échecs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut recevoir les deux avec le même calme, mais aussi la même détermination.
Et c'est ainsi que les quatre terroristes d'Action Directe vont se faire prendre en douceur et sans préavis le 21 février 1987 dans la ferme du Guégiraud à Vitry-aux-Loges, près d'Orléans. La méthode est on ne peut plus classique. On peut toujours compter sur un voisin dans ce genre de situation, et c'est donc un voisin qui donne à la police les renseignements nécessaires pour l'arrestation. L'intuition des policiers fera le reste. Ils avaient compris que derrière le couple de chercheurs belges censés habiter la ferme se cachaient ceux que toute la France recherchait. Repérés alors qu'ils font leur course au supermarché du coin, Rouillant et Ménigon, qui se font appeler Nadine Paquet et Robert de Greff, sont capturés dès leur retour chez eux après une brève intervention des forces de police. Les vitres de la porte d'entrée volent sous les coups de masse, la brusque rafale d'une arme automatique retentit dans le noir et les terroristes sont neutralisés. Les hommes du raid n'auront même pas utilisé la grenade qu'ils avaient découpillée. Les membres d'Action Directe sont jugés en 1989 par la Cour d'assises spéciale de Paris. Verdict, réclusion criminelle à perpétuité pour les quatre, assortie d'une peine incompressible de 18 ans pour le meurtre de Georges Besse. En prison, Jean-Marc Rouillant épouse Nathalie Ménigon. Joël Aubron, après le rejet de plusieurs requêtes, est libéré en 2004 pour raisons médicales. Elle meurt de maladie le 1er mars 2006. Son état de santé n'aura pas joué, ou trop tard. Écoutons comment réagit, par exemple, Nicole Borvo, présidente du groupe communiste au Sénat, face à ce refus d'une libération.
Ça me scandalise parce qu'il y a deux poids et deux mesures en matière de justice. Nathalie Ménigon a fait une demande précise de suspension de peine pour pouvoir se soigner puisqu'elle a eu deux attaques dont elle a gardé une hémiplégie partielle. Elle est très dépressive, elle a fait plusieurs tentatives de suicide et on lui a encore refusé une suspension de peine. Je trouve que vraiment il y a deux poids et deux mesures. Ça tombe le lendemain de la suspension de peine, de la libération de Loïc Le Floch-Prigent pour eczéma grave. Je conçois tout à fait qu'on puisse être libéré pour un eczéma grave, puisque pour moi, tout détenu a droit à l'application de la loi Kouchner. Mais vous voyez que dans un cas, elle soit appliquée assez facilement, tout compte fait, et que dans un autre, il y a un refus systématique, franchement, c'est insupportable. Moi, je demande vraiment solennellement qu'on applique la loi, la même pour tous.
Fin d'Action Directe. Fin d'une aventure désespérée et désespérante, écrite en lettres de sang. Les conditions de détention des quatre d'Action Directe ont été très dures, les plus dures qui soient, car ils ont été reconnus coupables d'actes terroristes. Le chef d'inculpation le plus grave en France comme dans d'autres pays.
Paradis, enfer.
suis bon. Non, 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 non.
Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui action directe avec notre invitée Fanny Bunion. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de la violence et du terrorisme et que vous mettez la dernière main à un ouvrage qui sortira en mars prochain qui s'appelle Les Amazones de la terreur consacré aux femmes terroristes. Alors, de la même façon qu'il ne suffit pas d'être une femme pour avoir du talent, pas plus qu'il suffit d'être un homme pour en avoir non plus d'ailleurs, quand on est terroriste avant d'être une femme ou un homme. Qu'est-ce qui vous a intéressé? En tout cas, quel est le rôle des femmes dans le terrorisme, ont-elles un rôle particulier?
Ce qui est certain, c'est que cette présence de femmes, elle interpelle.
C'est vrai.
Elle est même considérée comme la marque de fabrique de la violence révolutionnaire. C'est d'ailleurs pour les enquêteurs ce qui permet de distinguer sur une attaque à main armée, par exemple. La présence de femmes permet de dire c'est pas le milieu, c'est pas le banditisme, c'est pas le milieu criminel ordinaire, c'est ça a une dimension politique. Quand il y a des femmes, c'est politique. C'est en gros ce que constatent les enquêteurs. Cette présence féminine, on l'observe en France. Alors au-delà, hein, vous avez parlé du quatuor qui est arrêté à Vitry-aux-Loges en février 87, mais Action Directe, c'est plus que 4 personnes. Et c'est plus que 2 femmes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont été condamnées, hein, dans les archives que vous avez diffusées. On mentionne des chiffres plus importants. Dans tous les pays.
Là, j'étais sur l'incarnation d'Action Directe parce que les 4 ont été l'incarnation, même s'ils n'ont pas été, évidemment, Action Directe à eux seuls.
Absolument, absolument. Dans toutes les démocraties occidentales qui sont confrontées à la réactivation de la violence révolutionnaire dans les décennies 70-80, il y a des femmes. Il y a des femmes qui composent entre le tiers et la moitié des effectifs recherchés de ces organisations. Et c'est ça, effectivement, qui interpelle. Pour les militantes de ces organisations, le fait qu'elles soient des femmes n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont des combattantes, et au même titre que des combattants, ce sont des révolutionnaires, qui est un mot épicène, du projet politique qui est le leur de transformation complète de l'ordre social et politique du moment.
Alors, Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon, comment s'inscrivent-elles dans cette histoire des femmes impliquées dans la lutte armée politique ? Qui est politique au départ, qui après dans une dérive criminelle, hein, c'est clair, mais qui est politique au départ, voilà, on l'a expliqué.
Elles ont toujours effectivement expliqué, y compris lors des procès, hein, Action Directe est officiellement démantelée en février 87, mais les procès s'étirent jusqu'en 1994 en France, et elles prennent la parole au moment des audiences pour justifier justement leur action, la matrice idéologique qui est la leur. J'ai envie de dire que ce sont en fait davantage les juges et les journalistes qui les renvoient au fait d'être des femmes. Pour elles sont des révolutionnaires. La formule qui revient souvent, c'est que le sexe de celui qui tient le revolver n'a que peu d'intérêt. Ce qui compte, c'est la lutte, ce sont les idées, ce sont les actes. Mais pour les contemporains, cette présence féminine, elle dérange. Elle dérange là dans les années 80 parce que effectivement, on se souvient surtout de l'assassinat de Georges Besse, le PDG de Renault, en novembre 86. C'est pas le premier assassinat effectivement d'Action Directe. Hein, vous l'avez rappelé, le premier c'est le général Audran en janvier 85. Mais ce sont 2 femmes qui vont être condamnées pour avoir commis cet assassinat, et puis 2 hommes qui seront condamnés au titre de la complicité à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce ne sont pas les premières femmes violentes. Mais il y a une espèce de déni d'antériorité. À chaque fois que des femmes commettent des crimes, ça surprend.
On a l'impression que c'est les premières, alors que l'histoire a montré...
Il y en a toujours eu. Le mythe des Amazones.
Charlotte Corday, par exemple.
Charlotte Corday, le mythe des Amazones, les nihilistes russes, les militantes de la fraction Armée Rouge aussi. À travers l'histoire, on a toujours eu des femmes violentes, des femmes engagées qui utilisent la violence au nom de principes politiques.
Attention, les principes politiques, la violence au nom des principes politiques, on va en avoir une illustration qu'on va écouter ensemble. C'est Nathalie Ménigon qui s'exprime dans l'émission Reporter, présentée par Jérôme Bonnel, dit toujours. Alors là, nous sommes le 29 septembre 1981. Elle présente son parcours, comment elle est entrée dans l'illégalité et la lutte armée.
Moi j'ai 24 ans, je suis issue d'une famille ouvrière. J'étais employée de banque. En 76, il y a eu une grève très dure. On a été mis à la porte de la CFDT parce qu'on voulait gérer nous-mêmes notre lutte et qu'on était pour des actions plus radicales. À partir de ce moment-là, on a créé un collectif autonome. et dont le principal moyen d'action était le sabotage, mon sabotage d'ordinateur, destruction du travail fait par les jaunes, etc. À ce moment-là, moi, je me suis posé le problème de l'illégalisme et dans une stratégie de lutte armée. Et je me suis intégré au mouvement autonome. À l'époque, il y a eu les exécutions des militants de la RAF, Fraction Armée Rouge, Bader, Goudon-Leslin. Et j'ai décidé de passer à une forme de lutte beaucoup plus offensive et radicale. Et je me suis retrouvé dans le projet d'action directe avec des camarades qui travaillaient sur des usines, sur des lieux de lutte, qui étaient d'accord avec moi sur un projet plus offensif. C'est-à-dire, c'est une rupture avec toutes les luttes institutionnalisées, la violence armée, donc la violence révolutionnaire.
Donc l'illégalité.
L'illégalité.
Voilà, Nathalie Ménigon, donc membre des brigades, j'allais dire des brigades rouges, justement. Le lapsus nous amène à la question, membre d'Action Directe. Alors, il y a une connexion entre Action Directe en France, les brigades rouges en Italie, Fraction Armée Rouge en Allemagne, une espèce d'internationale européenne terroriste, où chacun a vraiment fait ses choses de son côté.
Ce sont des organisations qui apparaissent dans la même période, j'ai envie de dire. En tout cas, qui sont baignées par les mêmes aspirations, enfin proches en tout cas révolutionnaires, hein, qui puisent dans un référentiel théorique qui est celui de la gauche radicale. Là-dessus, il n'y a aucun doute du point de vue de leur identité politique. Et qui, alors après, selon les pays, vont développer une forme de radicalité en armes pour dénoncer ce que Jean-Marc Rouillant, dans l'archive que vous avez diffusée d'août 82, qui avait été enregistrée d'ailleurs pour France Inter, dénonçait la réalité sociale bloquée, qui avait nourri sa radicalisation. Il y a dans l'après 68, pour le dire de manière un peu rapide, dans les démocraties occidentales, en Italie, en Allemagne, au Japon aussi, mais aussi dans des régimes autoritaires comme en Grèce ou en Espagne, des organisations révolutionnaires qui décident de prendre les armes. C'est, j'ai envie de dire, quelque chose qui est dans l'air du temps, qui s'inscrit, qui tombe pas tout seul, hein, qui s'inscrit dans le sillage de la contestation 68, de la critique politique qui est formulée, de la nécessité de transformer le monde.
Et est-ce que justement, parce que les mouvements de 68, il n'y a pas eu qu'en France, n'ont pas abouti, je le disais tout à l'heure, c'était des révoltes, elles n'ont pas abouti à des révolutions, est-ce que la thèse des enfants perdus de 68 tient? Est-ce que ces gens se sont dit, ben voilà, puisque on n'a pas réussi comme ça, par la rue, la contestation sociale, on va y aller par les armes. Est-ce que ce sont les enfants perdus de 68?
Je sais pas si ce sont les enfants perdus. Il y a des gens des militants des organisations révolutionnaires en France ou en Allemagne, qui ont vécu, qui ont été engagés dans cette période des années 68. D'autres qui sont nés bien plus tôt, qui travaillaient, qui avaient une quarantaine d'années dans les années 68, et puis d'autres qui sont nés après. La Fraction Armée Rouge, par exemple, va s'autodissoudre en 1998 avec des gens donc qui sont nés plus tard, qui sont nés dans la décennie 70. Donc c'est pas forcément des enfants biologiques, j'ai envie de dire au sens propre, de 68, mais il y a un conflit autour de l'héritage de 68.
C'est ça, il y a quand même un conflit.
Que ce soit un héritage revendiqué, genre nous n'avons pas trahi, nous continuons les aspirations révolutionnaires que certains ont portées en 68 et puis on rejetait, hein, un peu comme Guy Hockenheim qui dénonçait ce qui était passé du Colmar au Rotary en 86. Oui. Donc voilà, il y a ce conflit entre la trahison ou au contraire la filiation revendiquée avec 68. Mais en tout cas, ça fait débat, ça dérange. Il se passe quelque chose autour de la mémoire de 68. Je dis bien la mémoire, parce que dans la manière dont on appréhende cette question-là, il y a souvent une confusion entre l'expérience des militants, des personnes qui ont vécu cette période, et puis l'histoire. Il y a un besoin d'histoire, je pense, très fort. It seems that I won't be warned. And certainly I saw a sign. I can't find a way that's love.
seem to be at odds with me. Why? When did heaven get this heavy? Everything's right until it's wrong. But something about you feels like a home. But baby, you know that you got me gone. You're pulling me back.
Faire sensible sur France Inter aujourd'hui, action directe avec notre invitée Fanny Bugnon, historienne, spécialiste du terrorisme, en tout cas dans son observation et son étude. Est-ce que vous pensez que la société d'aujourd'hui est porteuse ou serait porteuse de mouvements comme ceux qu'on a connus dans les années 70 et 80? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de résonance?
La violence d'action directe, elle a des résonances avec aujourd'hui. D'abord parce que c'est un sujet qui fascine, c'est un sujet qui passionne. Je suis historienne, je peux pas dire l'avenir. Ce qui est certain, c'est que je pense que, comme il y a eu dans les années 70 et 80 des gens qui ont décidé de prendre les armes au nom de la révolution, il y en a aujourd'hui qui le font aux quatre coins du monde. Je pense que ça va pas s'arrêter. Ça date pas des années 70. Les formes, par contre, de la violence ont changé parce que les techniques ne sont plus humaines, parce que le monde géopolitique n'est plus le même non plus. Je pense que c'est important, en tout cas, de faire une distinction entre la violence indiscriminée. Le fait de faire des attentats dans des lieux publics, de poser une bombe en pleine rue, dans les transports, etc. Une violence qui se veut cibler, qui veut viser un symbole. Ce sont deux choses différentes. Et Action Directe n'a jamais pratiqué la violence indiscriminée.
Alors, on a entendu tout à l'heure Nathalie Ménigon parler d'elle-même. On va entendre parler maintenant de Joëlle Aubron par Catherine Vieux-Charrier. C'est une proche hein, de Joëlle Aubron et elle répond à une interview réalisée par Sébastien Legénie de France Inter. C'était le 1er mars 2006.
C'était une révolutionnaire qui voulait absolument rompre avec le capitalisme. Elle se disait communiste au sens le plus orthodoxe du terme. Hein. Elle l'a assumé et en même temps, nous sommes allés à la voir un film qu'a réalisé Pierre Carles et où elle dit que l'hypothèse révolutionnaire qu'ils avaient avancée avait failli et qu'ils avaient échoué.
Alors le problème, c'est que ces gens-là s'en aperçoivent trop tard. Alors c'est vrai que les mouvements révolutionnaires sont des mouvements jeunes qui ne peuvent pas forcément s'adosser sur une maturité intellectuelle. Et quand on s'aperçoit que c'est une impasse, bah, il est trop tard. Manifestement, c'est le problème de Joëlle Aubron, entre autres, et d'autres, et de Nathalie Ménigon. Est-ce que, derrière cela, ma question, c'est est-ce que ces mouvements, qui sont quand même des mouvements suicidaires, et on voit bien qu'ils sont suicidaires, sont d'abord des mouvements de jeunesse?
Vous voulez dire fougueux et incontrôlable
oui.
Par jeunesse?
Ça peut se traduire comme ça. La jeunesse ne se traduit pas forcément comme ça, mais elle peut se traduire comme ça.
Pas nécessairement, non. C'est difficile de répondre à votre question.
Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que c'est Joëlle Aubron, mais d'autres l'ont dit aussi. Oui, on s'est aperçu bien plus tard que c'était pas la méthode, quoi.
Ils l'ont dit effectivement a posteriori, sur le coup ils y croyaient, sinon ils ne l'auraient pas fait. D'une manière générale, l'histoire n'aime pas les vaincus de toute façon. Effectivement, ils ont dit qu'ils avaient perdu ou qu'ils s'étaient trompés. C'est le cas de toutes les expériences en Europe occidentale. En même temps, je ne sais pas s'il était sérieusement envisageable d'y parvenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont voulu, à un moment ou à un autre, mettre des mots en acte. Quand la gauche prolétarienne enterre Pierre Auvernet en 1972, militant maoïste tué devant les grilles de l'usine Renault de Billancourt.
Oui, il y a un vrai traumatisme.
Il y a un vrai traumatisme et il est enterré, un cortège de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui accompagnent son cercueil jusqu'au Père Lachaise en criant « Nous vengerons Pierre Auvernet ». Mmh, quand Action Directe abat le PDG de Renault et que l'attentat est revendiqué par le commando Pierre Auvernet, c'est plus qu'un clin d'œil. C'est l'idée de dire « Nous n'avons pas trahi, nous mettons les mots en acte ». Le pouvoir est au bout du fusil, ce n'est pas qu'une formule. Les mots ont un sens. C'est une tentative, en tout cas, de déclinaison pratique. Donc, je ne pense pas que ce soit une histoire d'être jeune ou moins jeune. C'est sûr que on a tendance à dire que l'âge avançant, la sagesse vient. Mais il y a plusieurs figures d'Action Directe, de personnes qui ont été condamnées pour appartenance à Action Directe, qui étaient loin d'être de prime jeunesse, mais qui avaient plutôt une soixantaine d'années.
Bien, Fanny Bunion, votre livre donc qui sortira, je le rappelle, en mars 2015, Les Amazones de la Terreur, parle pas que de Ménigon et Aubron, hein, de ces deux femmes, mais d'autres femmes. Alors, destin de quelles femmes croise-t-on en lisant votre livre ?
Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, donc qui va sortir au printemps chez Payot, c'est de faire une étude historique autour de cette catégorie que sont les femmes terroristes, parce que c'est une catégorie à proprement parler. Je le disais tout à l'heure, hein, la présence de femmes interpelle. Donc on s'intéresse en particulier à elle. Alors il y a certaines figures qui reviennent de manière très présente dans l'espace médiatique, Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron en particulier, mais les militantes allemandes aussi, les plus connues étant Ulrike Meinhof et Gudrun Henslin de la fraction Armée Rouge.
Ulrike Meinhof, absolument complice de Bader, hein, très proche de Bader.
Absolument, qui est l'une des cofondatrices de la fraction Armée Rouge en 1970. Ce qui d'ailleurs va interpeller, c'est que l'acte fondateur de la fraction Armée Rouge, c'est la libération d'Andreas Bader, qui était incarcéré en mai 1970 par un commando féminin. Ça interpelle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que l'engagement radical, révolutionnaire des femmes est perçu en France et en Allemagne.
Voilà. Bien, alors, il nous reste 45 secondes. Mm-hmm. C'est pas beaucoup, mais on peut en parler en 45 secondes. Vous m'avez gentiment donné un flyer sur lequel je lis « Les enfants de la terreur, le choix de la lutte armée, un spectacle de Judith Depaul ». Alors, dites-moi où on peut le voir, à partir de quand. Enfin, ça a commencé le 4 ou 8 novembre. La prochaine représentation, c'est le 14 novembre à 20h30, espace Sarah Bernard à Goussainville, par exemple. Donc c'est une tournée. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Oula, vous avez 15 secondes pour
en parler. C'est une pièce de théâtre sur l'histoire des organisations révolutionnaires en Allemagne, en Italie et au Japon des années 70. Et donc ça tourne en novembre dans plusieurs scènes du Val d'Oise. Il y a un site sur les enfants de la terreur, vous trouverez toutes les informations. Mais c'est une pièce historique très importante, je pense.
Très bien, merci beaucoup Fanny Bunion. À bientôt.
Merci.
Peut-être. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.
Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.